48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 90e MAG de 48 FM, le premier MAG de l'année. Donc,
bonne année Julia.
Bonne année Nicolas. Donc le programme reste le même, une heure d'émission, de thèmes d'actualité locale, avec moi donc pour présenter Nicolas, on vient de l'entendre. Tu redis bonjour.
Bonjour Julia. Bonjour les invités.
Donc,
bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler du plan Vague de Froid avec Jérôme Portal, qui est chef du service interministériel de défense et de protection civile à la préfecture de la Lozère, et Denis Meffray, qui est directeur de la DDCSPP, donc Direction départementale de la cohésion sociale et la protection des populations. Et dans une seconde partie d'émission, nous parlerons logement avec Héloïse Coste, qui est directrice et juriste de l'ADIL 48, donc l'agence départementale d'information sur le logement en Lozère, et Lorlaine, c'est comme ça que ça se prononce ? Lorlaine Foy, qui est juriste et conseillère donc à l'ADIL 48 aussi. Donc on va commencer avec vous, messieurs. Le plan hivernal a débuté le 1er novembre. Il se termine le 30 mars, il me semble. En fonction des températures, donc le préfet va déterminer des plans de
d'activation. Des plans d'activation.
Voilà, des plans d'activation. Donc comment ça se passe?
Ben, tout d'abord, il faut rappeler l'objectif du dispositif qui s'appelle l'annexe ORSEC, gestion des vagues de froid. L'objectif, c'est de définir les actions à mettre en œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires et sociaux liés aux températures de l'hiver, et également les effets collatéraux, tous les aspects collatéraux, je pense notamment au monoxyde de carbone, etc. Donc comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, c'est articulé autour d'une veille saisonnière qui couvre la période, vous l'avez effectivement rappelé, du 1er novembre à fin mars, et d'un mécanisme d'activation opérationnelle en cas de vague de froid qui s'appuie à la fois sur tous les services, dont celui qui est dirigé par M. Meffray, sous l'autorité du préfet, et qui s'appuie notamment sur la vigilance météorologique, c'est-à-dire la carte que vous voyez qui est diffusée régulièrement sur les écrans de télévision. C'est bien un des mécanismes qui nous permet d'activer opérationnellement ce dispositif.
Donc on le fait aussi en prévention. C'est-à-dire que si Météo France nous dit attention, grosse vague de froid, même si c'est au mois de juillet, on peut prévenir et mettre en place un plan, c'est ça?
Alors on a une caractéristique, on s'appuie sur des prévisions météorologiques et avec des températures ressenties, on reviendra dessus, mais on a aussi une volonté gouvernementale de ne pas gérer ce dispositif au thermomètre. Je vais reprendre le mot du ministre, c'est la fin de la gestion au thermomètre. On est vraiment sur des besoins de publics vulnérables et on va répondre à leurs attentes. Donc on adaptera le dispositif, quelle que soit la température, mais néanmoins, pour qu'il y ait une lisibilité pour le grand public, c'est ce qu'on est en train de faire. On essaye de se caler sur des niveaux de température, mais si effectivement il fait moins 20 au mois de juillet, on ouvrira le dispositif d'accueil des personnes en grande vulnérabilité, ce qu'on fait d'ailleurs pour la canicule. C'est le même dispositif pour la canicule l'été.
En fait, c'est pour gérer les extrêmes, quoi, les conditions extrêmes.
Les conditions extrêmes pour les personnes qui sont le plus exposées.
Et à partir de combien de degrés c'est considéré comme extrême?
Parce que c'est moins 50. J'ai un portal pour le dé.
Oui, non, mais pour c'est l'activation. Moins 0 dans la.
Et ensuite, on regardera ce qu'on a, nous, comme barème de température.
Je crois qu'il faut expliquer un petit peu le fonctionnement technique de ce dispositif. En fait, tout d'abord, il se fonde sur une surveillance journalière. Vous avez indiqué que c'était un dispositif de prévention avant tout, c'est vrai. Il y a une surveillance journalière qui est opérée par les services. À partir de la consultation de ces cartes éditées notamment, mais pas seulement, mais notamment par Météo France, qui formalise Cet état de vigilance en quatre niveaux, vous le connaissez, qui est vert, jaune, orange et rouge, est assorti d'un pictogramme particulier, qui est un pictogramme représentant un thermomètre. C'est bien lui qui vise le plan grand froid. Et après, une fois qu'on a regardé cette caractéristique donnée par Météo France, qui reflète un état, il faut travailler sur les températures ressenties, sur certains critères qui sont évalués au niveau départemental. Quels sont-ils ? C'est effectivement la température, comme vous l'avez dit, avec trois niveaux. La situation qui est normale, qui est inférieure, qui est entre jusqu'à moins 5. La température qui est en situation bleu pâle, qui est plutôt dans la fourchette de 5 jusqu'à moins 10 degrés. Après, la situation bleu foncé, qui est une situation beaucoup plus préoccupante, qui va de moins 10 à moins 18. Et enfin, la situation qui est caractérisée par la couleur violette de Météo France, et qui est les températures ressenties inférieures à moins 18. Ça, c'est un des deux critères parmi toute l'évaluation des critères que l'on a, qui sont donc, je rappelle, la couleur de la carte de vigilance météo et ses températures ressenties. Et enfin, on a, c'est pour ça que le dispositif est élaboré autour de tous les services de l'État, c'est qu'on a établi un certain nombre de critères complémentaires qui sont des facteurs aggravants. Et quand on a, entre guillemets, mouliné tous ces critères, on en arrive au déclenchement de certaines opérations. Voilà. Donc, pour quelques exemples, les critères, c'est par exemple la tension dans les établissements sanitaires ou la tension dans les établissements sociaux, la présence d'enjeux sur le terrain. Est-ce qu'il y a des rassemblements ? Est-ce qu'il y a une forte arrivée de personnes sans domicile fixe ? Est-ce qu'on a des problématiques de coupure électrique qui générerait des problèmes de chauffage, etc. Tous ces critères sont évalués tous les jours. Et en fonction de ces critères, on en détermine les actions à entreprendre.
Donc il y a une cellule à la préfecture qui gère ça au quotidien, c'est ça ?
Tous les jours, mon service a une section qu'on appelle opération. Et cette section est chargée, effectivement, avec un agent en permanence, d'évaluer ces critères, mais travaille en étroite collaboration avec tous les techniciens du plan, dont notamment les équipes de M. Meffray.
D'accord. Et ça représente combien de personnes à peu près ?
Nous, ça représente deux personnes tous les jours qui travaillent sur ce dispositif, mais qui travaillent sur bien d'autres, bien évidemment.
Pour la DDCSPP, c'est une personne qui n'est pas à temps complet, mais la caractéristique, c'est que les actions sont menées par des opérateurs, par des associations caritatives ou assurantes de l'hébergement, et qui seront activées en fonction des niveaux de vigilance qui ont été évoqués, et qui seront à même de mobiliser les effectifs, les forces vives dans les associations pour répondre aux besoins.
Actuellement, on est en quel niveau de vigilance en Lozère ?
On est en niveau vert. À vrai dire, pour cette année, les températures sont très clémentes et nous avons activé simplement une seule fois le niveau jaune qui correspond à un niveau de vigilance. Voilà. C'est un hiver qui est relativement clément.
Mais par exemple, j'imagine que la température à Saint-Germain-de-Calberte n'est pas la même qu'à Saint-Chély. Est-ce qu'on peut être en alerte à Saint-Chély et puis pas dans le sud,
par exemple ? Est-ce que c'est zoné, en fait ?
Oui, absolument. C'est ouais. Absolument. Vous touchez à un des aspects fondamentaux du plan qui est caractéristique de la géomorphologie du territoire lozérien, qui a effectivement des personnes qui vivent à une altitude de 200-250 mètres et d'autres jusqu'à 1400 mètres. Effectivement, ce travail a été mené, notamment par les services de la préfecture, pour zoner, établir un zonage climatique du territoire. Voilà. On a établi à peu près 6 zones, 6 à 7 zones, ça dépend de ce qu'on évoque en termes de critères. Mais pour le plan grand froid, pour ce dispositif, on a essentiellement deux zones qui sont significatives, c'est-à-dire en gros le nord de Mende et le sud de Mende. Voilà. Avec deux stations de référence météo, une station qui est vers Nossac et une station à Mende.
D'accord. Et donc une fois que ce plan de vigilance donc est activé par la préfecture, etc., Comment c'est mis en place sur le territoire? Est-ce qu'il y a des structures un peu partout? Comment ça se passe?
Comme je vous le disais hors antenne, on a une caractéristique sur l'ensemble de ces plans, c'est que c'est une action interministérielle. Donc là, je vais vous parler de ce que la DDCSPP active comme dispositif avec ses opérateurs, délégataires de missions de service public.
Il y a bien d'autres. DCSPP, c'est
la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. C'est vrai qu'il vaut mieux le rappeler. Et c'est au titre de la cohésion sociale que la DDCSPP intervient, mais avec un objectif de protection des populations. La caractéristique de l'organisation qui est mise en place, je vous l'ai dit, c'est de s'appuyer sur des associations. Il y en a trois dans le département. L'association La Traverse Malzac, donc qui est basée à Mende, l'association Quad Neuf qui est basée à Florac, et l'association Alter qui est basée à Chirac-Marvejol. Donc ces trois associations couvrent l'ensemble du département en pouvant intervenir sur toute sollicitation. Je vais y revenir. Actuellement, nous sommes, pour répondre à votre question et ne pas l'oublier, nous sommes en température ressentie blanche, donc aucune intervention nécessaire, mais néanmoins les associations ouvrent leur dispositif. Et notamment l'accueil du jour est ouvert, été comme hiver, de manière à pouvoir prendre en charge les personnes, quelle que soit la température. Puisqu'on s'adresse à des personnes en difficulté, sans abri, qu'elles soient ponctuellement sans abri ou qu'elles soient itinérantes, des personnes qui font la route et qui s'arrêtent à Mende sur un trajet un peu plus long. Donc ces associations, elles interviennent à travers des capacités d'hébergement, je le développerai peut-être tout à l'heure, de manière à offrir un hébergement d'urgence et orienter, le cas échéant, vers un hébergement un peu plus durable, un hébergement adapté. Elles sont en capacité également de prendre en charge à distance, avec une convention avec des opérateurs, des sociétés de taxi, donc qui peuvent aller prendre en charge les personnes à l'autre bout du département. Donc pour prendre un exemple que vous citiez, donc on a quelqu'un en Cévennes qui recherche un hébergement pour la nuit. Le premier opérateur à proximité, c'est Florac. Ouais. Mais comme il y a 4 places d'hébergement d'urgence à Florac, si elles sont saturées, à travers la sollicitation d'un taxi, on peut l'acheminer sur d'autres centres d'hébergement. Et si ces capacités, même dans les centres d'hébergement, sont saturées, on travaille avec les hôpitaux qui ouvrent des places exceptionnellement en situation d'urgence, voire les hôtels de Mende ou de Langogne qui acceptent par convention de prendre en charge les personnes. Donc on couvre l'ensemble du département, quelles que soient les températures, je vous l'ai dit, pas de gestion au thermomètre, mais avec une montée en puissance du dispositif en fonction des températures. C'est vrai que il n'y a pas eu beaucoup de jours très très froids.
Ça va venir.
et surtout, le week-end, c'est vrai que c'est toujours un peu plus compliqué le week-end, puisque il faut mobiliser des ressources un peu moins mobilisables le week-end, mais néanmoins, le dispositif est H24, 7 jours sur 7, de manière à répondre à toutes attentes. Et l'interlocuteur, je vous montre à la radio, ce qui ne se fait pas, une jolie affiche qu'on met dans tous les lieux publics, et avec une petite plaquette qui est remise aux personnes sans domicile, qui mentionne en première intention le 115, le SAMU social lausérien, H24, 7 jours sur 7, qui répond à toute demande, de demande d'hébergement ou même de demande de renseignement.
D'accord. Mais, par exemple, si moi je vois une personne en situation de difficulté pendant ces périodes-là ou même hors période hivernale, j'appelle le 115.
Voilà, okay.
Là, t'as une chambre citoyen qui t'accueille, qui dit, qu'est-ce que vous voulez? Hébergement pour la nuit? Plutôt l'hôtel, plutôt le
citoyen?
Vous faites chez l'habitant aussi ou...
Alors là, on sera sur des situations d'extrême urgence, avec des naufrages de la route ou des...
D'accord.
Mais là, c'est encore un autre cadre, mais qu'on pourrait évoquer, qu'on devrait évoquer d'ailleurs.
Donc là,
effectivement, on a recours à toute capacité d'hébergement, y compris chez l'habitant, dans les bâtiments municipaux, etc., etc.
Donc là, si je comprends bien, en fait, vous utilisez des relais qui sont des associations que vous avez passées en convention, c'est ça?
Mm-hmm. Oui, qui sont financées pour ce faire.
Voilà, qui sont financées pour pour rendre ce service, en fait, à la population.
À la population vulnérable. Donc, on va être
d'accord.
sur des...
Qui est très ciblé,
sur, voilà, très, très ciblé sur les personnes sans abri.
Si moi, je suis sans abri au bord de la route, je suis pas invulnérable.
Si, si. Grande précarité, si. Sans abri. Et après, ces associations peuvent apporter des services à des personnes isolées. Parce que là, on parle de personnes, en plus sûrement, pour certaines qu'on connaît bien, qu'on connaît individuellement. Donc, on va être capable de savoir à l'occasion de maraudes qu'on organise trois fois par semaine, de savoir que monsieur un tel, madame un tel, va passer la nuit dehors alors qu'il fait moins 10, donc on est capable d'aller vers elle. Mais la difficulté, c'est d'aller sur tout le territoire vers des personnes vulnérables, mais qui ne sont pas identifiées comme telles.
D'accord.
Et là, on a les personnes âgées, les personnes isolées, les personnes handicapées. Donc là aussi, il y a d'autres associations qui ne sont pas les mêmes que celles que j'ai citées, la Croix-Rouge, Saint-Vincent-de-Paul, les Restos du Cœur, qui vont avoir une attention particulière vers ces publics pour ne pas les oublier en situation de précarité. Et puis le maire, n'oublions pas le maire, qui est le premier magistrat de sa commune,
qui déclenche un plan, si c'est nécessaire,
toute la responsabilité du déclenchement de dispositifs de prise en charge en situation d'urgence, mais doit également... à travers un registre, recenser toutes les personnes vulnérables de sa commune pour pouvoir, le cas échéant, faire intervenir soit des travailleurs sociaux, soit des associations caritatives, soit le CCAS, le Comité communal d'action sociale, qui va aller vers ces personnes pour pouvoir apporter une réponse ponctuelle ou durable sur une période de grand froid.
Et vous disiez que, bon, malheureusement, il y a des personnes que vous revoyez tellement souvent que vous les connaissez, mais est-ce qu'il y a des nouveaux précaires, finalement, chaque année, des nouveaux profils, peut-être. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme de profil, mais...
Alors, effectivement, on a une typologie
personne précaire,
voilà, donc qui évolue dans le temps. On était plutôt sur des personnes relativement âgées, qui ont fait l'objet d'un accident de la vie et qui se trouvaient en difficulté, soit qui prenaient la route, soit qui s'installaient dans la précarité, dans l'hébergement précaire, une caravane, etc. On s'aperçoit là de plus en plus, on a des jeunes, et des jeunes donc de passage avec des gros problèmes de santé. C'était le cas précédemment, mais là on a des jeunes avec des situations d'addiction, alcool, drogue, qui sont multipliés du fait de leur précarité. Et avec des profils qu'on commence à bien cerner, et pas uniquement sur la Lozère. Là, on peut généraliser sur le territoire français avec des jeunes qui sont issus de dispositifs d'aide sociale à l'enfance, donc qui n'ont pas eu une enfance traditionnelle et donc qui ont eu des séjours de vie en famille d'accueil, en institut, en
centre. Ça représente combien de personnes à peu près sur le département ?
Sur la Lozère, c'est une petite centaine de personnes qui sont prises en charge par an sur la période hivernale, mais qu'on continue à voir notamment sur le reste de l'année, notamment ce que j'évoquais tout à l'heure,
les
personnes qui font de la route et qui vont traverser la France et qui vont s'arrêter sur des lieux d'hébergement d'urgence ou un peu plus longtemps pour se poser.
C'est un chiffre qui est en hausse, en baisse
C'est un chiffre qui est stagnant sur la Lozère, mais qui est en augmentation sur le seul territoire français. Il est clair que les appels au secours qu'on a pu entendre par M. Emmanueli il y a quelques années montraient bien que les dispositifs dans les grandes villes sont ultra saturés. Actuellement, à Montpellier, il y a à peu près chaque soir une centaine de personnes qui n'ont pas de réponse en matière d'hébergement, même en ouvrant des nuitées d'hôtel, même en faisant de l'appel à des ressources type hôpitaux, etc. Il y a chaque soir en ce moment, à Montpellier, une centaine de personnes qui n'ont pas de réponse. Il y a une deuxième typologie, pour continuer à répondre à votre question de public qui est en augmentation très nette sur le territoire français, ce sont les déboutés du droit d'asile. Donc ce sont des personnes qui sont arrivées en France pour bénéficier du droit d'asile, qui ont fait donc l'objet d'une procédure complète pour étudier leur situation et qui au final, pour des raisons qui appartiennent aux instances qui en décident, ne sont pas reconnues comme réfugiées et donc sont amenées à quitter le territoire français. Mais ces personnes sont positionnées, il y en a quelques-unes sur la Lozère, sur Mende. Et donc on leur doit, au titre du droit inconditionnel à l'hébergement, un toit tous les soirs. Et donc ces personnes-là, par contre, sont en augmentation très très importante et viennent saturer les dispositifs d'hébergement classiques.
Et donc,
qui sont moins disponibles pour les publics plus traditionnels de ces associations. Mais néanmoins, on leur doit un toit, on leur doit un certain nombre de prestations. Et donc on a recours là cette fois-ci à des nuitées d'hôtel ou des gîtes ou des hébergements pérennes, puisque là ce ne sont pas des gens qui sont de passage. Tant qu'elles n'auront pas épuisé toutes leurs procédures de recours et qu'elles n'auront pas envisagé éventuellement de repartir dans leur pays, elles seront effectivement, parce que les enfants sont scolarisés, parce qu'il y a des soins assurés, parce qu'il y a une sociabilisation sur le territoire lozérien qui font qu'elles sont présentes.
Est-ce que vous avez la possibilité, alors peut-être la question s'adresse aussi à Héloïse, est-ce que vous avez la possibilité de réquisitionner des logements vacants?
Alors sur l'aspect
qui serait connu ou enfin, je sais pas si
sur l'aspect logement
en termes de droit, est-ce qu'il y a quelque chose dans la loi qui fait que si j'avais par exemple un loft de 150 mètres carrés avec 15 couchages et qui serait vacant, est-ce que la préfecture peut le réquisitionner dans un plan grand froid pour
Moi, tu me poses une colle, j'ai pas réalisé.
Mais faut être toujours prêt.
Toujours prêt, mais comme ça, je dirais que non. A priori, non sur le principe du droit de propriété. Mais peut-être que dans certaines circonstances très particulières, il y a des exceptions. Mais a priori, non.
D'accord. Ce qui explique que certaines associations s'accaparent des logements, notamment, je pense, à Paris, aux actions qu'il y a eu.
Oui, sachant que souvent, ce ne sont pas des logements qui s'accaparent. Souvent, c'est des immeubles de bureaux qui sont vacants et qui sont squattés par des associations pour héberger, effectivement, des personnes sans domicile. Mais je ne crois pas qu'en Lozère, on soit confronté à...
Non. Et le préfet a à sa main ce qu'on appelle le contingent préfectoral, c'est-à-dire un volant de logement qu'il peut mobiliser à destination de personnes relevant du logement social.
D'accord.
Et donc, en Lozère, en tout cas, ce contingent est mobilisé et ne nécessite pas, sauf cas d'extrême urgence, parce qu'effectivement, le préfet, dans ses compétences, s'il y a vraiment des situations dramatiques avec un nombre de personnes importantes, peut, je pense, réquisitionner tout bien ou toute personne en situation d'urgence. Mais il faudrait vraiment qu'on ait un épisode neigeux très très important et de devoir ouvrir des capacités d'hébergement qui ne seraient pas suffisantes avec les salles des fêtes, avec les écoles, avec les gymnases, etc. etc. Donc le préfet éventuellement pourrait l'envisager, mais ça serait vraiment sur des situations d'extrême urgence motivées.
Catastrophe ou des choses
on tombe sur le volet gestion de crise. En fait. On tombe dans le dispositif du droit commun ORSEC, c'est-à-dire un dispositif qui permet à tout moment au préfet de pouvoir se saisir de moyens publics ou privés pour porter protection à la population. Mais c'est quand même relativement encadré. C'est bien dans une situation de crise.
D'accord.
D'accord. Est-ce que y a des centres, par exemple, en Lozère, qui sont plus pris d'assaut, entre guillemets, que d'autres? Est-ce qu'on constate, je ne sais pas, plus de monde du coup du côté de Saint-Chély, ou est-ce qu'il y a vraiment...
La concentration la plus importante est sur Mende, pour des raisons de proximité
Et de bassin de population, tout simplement.
Voilà, le bassin de population, de proximité des services publics, des commerces. Je parlais des déboutés du droit d'asile, proximité de la préfecture pour gérer leurs droits. Donc on a une concentration sur Mende, et le nombre de places en hébergement d'urgence notamment est de 11 sur Mende, alors que sur Florac il est de 4, sur Saint-Chély de 3, sur Langogne de 4.
Oui, c'est pas beaucoup en même temps.
C'est pas beaucoup, mais on a en situation
de froid
normal, d'accord, acceptable, c'est suffisant. Je vous l'ai dit, après, on peut mobiliser 19 places en hôpital sur les différents centres hospitaliers du département. Et on peut aussi travailler avec 4 hôtels, les 4 hôtels mandois, et éventuellement, par convention, l'hôtel de Langogne et un hôtel à Banassac. Et donc, on a une capacité qui peut monter en puissance. L'hôtel de France.
Non, l'hôtel du département.
L'hôtel du département.
Non, d'accord.
Mais bon, pourquoi pas, le conseil pourrait proposer des locaux pour prendre en charge ces publics. Donc, on a un dispositif qui est... alors, c'est cet hiver qui, pour l'instant, n'est pas saturé, puisque bon, quand on regarde les statistiques depuis le début de la période... On est sur un taux de saturation à 93%. Et pour le long week-end du premier de l'an, on avait 18 places de disponibles sur l'ensemble du département. Bon, il a fait un peu plus froid sur le week-end du premier que le 31 décembre. Mais effectivement, le dispositif, cette année, n'était pas saturé. L'année dernière, sur des vagues de froid à moins 15, moins 20, comme on a pu avoir, là, par contre, le dispositif est saturé. Mais on ouvre des capacités supplémentaires.
D'accord.
Donc on n'est pas en tension, on n'a pas eu depuis plusieurs années, parce que les moyens financiers ont été mis en conséquence pour pouvoir, à la différence de ce que je vous disais de Montpellier, où nos moyens financiers nous permettent de satisfaire l'ensemble des demandes.
Est-ce qu'il y a des solidarités entre les départements, par exemple Montpellier, qui vous dirait, bah, écoutez, on a besoin de votre aide, est-ce que vous pouvez accueillir une vingtaine de personnes? Est-ce que ça s'est vu? Est-ce que c'est possible dans votre plan?
C'est le cas notamment sur les demandeurs d'asile avant leur entrée en centre ad hoc ou pour les déboutés. Donc là, d'accord, effectivement, on joue la solidarité. Voilà. Par contre, sur des publics un peu plus installés, c'est compliqué. On a un public aussi de sortant de maisons d'arrêt, qui pourrait être fixé un peu plus sur Mende pour désengorger les grands centres. On s'aperçoit que ce sont des personnes qui sont originaires de ces départements, Montpellier, Nîmes, et qui repartent très vite, alors qu'on pourrait leur proposer une prise en charge un peu plus individualisée, un peu plus personnalisée sur la Lozère. Ce sont des publics qui repartent très rapidement vers leur destination d'origine. Donc on a du mal sur la Lozère à fixer des publics qui n'en sont pas issus.
D'accord. Vous parliez de maraude et de patrouille. En fait, qui patrouille? Parce que moi, je me balade pas mal la nuit, enfin tard le soir.
Ah bon? Ah bon?
Héloïse. Et du coup, les maraudes et les patrouilles, je les vois pas, quoi. Alors, en fait, c'est quoi? C'est de la vigilance? Ce sont des gens que vous connaissez?
Non, la maraude,
c'est vous le soir qui partez en patrouille.
Le préfet en a fait une, donc pas ce 31 décembre, mais l'hiver dernier a fait une maraude avec l'équipe de la Traverse. C'est l'association La Traverse.
D'accord.
Donc, qui s'organise avec deux travailleurs sociaux et à la demande d'une infirmière du centre hospitalier de Mende qui peut venir compléter l'approche sociale avec une approche médicale, sanitaire, trois fois par semaine pendant toute la période hivernale sur Mende et le cas échéant à la demande de citoyens lambda comme Nicolas Trottoin ou d'élus ou de forces de l'ordre, les forces de gendarmerie peuvent très bien appeler en disant, on est passé en tournée, en mission, je ne sais plus comment ils appellent ça, et on a vu une personne sur le bord de la route, on est repassé 10 minutes après, elle était toujours là, donc est-ce que vous pouvez intervenir? Donc la traverse a des véhicules et peut se déplacer. Après, donc le SAMU, bien évidemment, toute personne peut appeler les services, soit les pompiers, soit le SAMU, pour intervenir en situation d'urgence sur un risque vital notamment. Et puis, je l'ai évoqué, les forces de l'ordre sont un acteur non négligeable, ayant des rotations sur les territoires, peuvent, et puis connaissent bien les personnes qui sont assez coutumières d'être sur le bord de la route et peuvent intervenir.
Pour mieux appeler, si on se promène avec Nicolas la nuit, est-ce qu'il vaut mieux appeler le 115 ou est-ce qu'il vaut mieux appeler une association locale directement?
Ah non, le 115, puisque le 115 est vraiment le SAMU social.
D'accord.
Qui va centraliser les demandes
et
qui en plus avec son alter ego qui est le SIAO, le service intégré d'accueil d'orientation, va trouver un hébergement. Donc le 115 prend en charge l'appel et donc a l'ensemble des places disponibles et va pouvoir orienter. Alors qu'une association localement alter à Chirac, sauf si spontanément elle a des places disponibles et donc elle va prendre en charge, va être plutôt une destination que, comment dire, être elle-même l'élément orientateur. Par contre, donc le SAMU 48 se rapprochera du SIAO si le cas échéant, après un diagnostic médical, donc ça ne relève pas d'une hospitalisation, mais plutôt d'une mise à l'abri. Donc là on aura une réponse par le 115 et par le SIAO.
Une question
Oui, moi j'avais une petite question. Du coup, lors des maraudes, il y a une prise en charge pour fournir des vêtements chauds ou de l'alimentation, quelque chose lors des maraudes, ou c'est simplement pour proposer un hébergement?
Alors, il y a plusieurs aspects, effectivement. Donc, le travailleur social est donc à même d'évaluer la situation de la personne et ensuite de faire appel donc au moyen de la traverse, puisque la traverse a ses propres moyens de distribution, de couverture, de denrées alimentaires, ou de persuader la personne de venir à l'abri, puisque toute la difficulté est de faire entendre à la personne qu'elle serait mieux à l'accueil de nuit, voire au CHRS pour une prise en charge sociale un peu plus longue, au centre d'accueil d'hébergement et de réinsertion sociale. Mais si la personne souhaite rester sur place, c'est ce qui est le cas des personnes un peu plus connues d'Ormandes qui sont installées depuis quelques années, et on leur apporte les services nécessaires. Difficile de parler dans le micro et de regarder la personne qui va poser la question.
C'est tout un art.
C'est l'art du... Oui, un petit peu, comme c'est complexe.
C'est complexe. Vous avez un métier très difficile.
Est-ce que vous savez si en fait il y a des initiatives citoyennes de gens qui hébergent comme ça spontanément des gens? Est-ce que c'est recensé ça ou pas du tout?
Ça n'est pas recensé, ça n'est même pas valorisé parce qu'effectivement.
Parce que ça m'arrive le soir d'héberger. non, mais ça m'est arrivé, c'est vrai. Ça m'est arrivé. Mais je sais qu'il y a des gens qui le font spontanément. Bon, après, c'est plus rentré dans nos mœurs d'accueillir comme ça et de servir la soupe.
Dans les campagnes, je pense qu'effectivement, les personnes qu'on connaît pour être en grande précarité peuvent faire l'objet d'une prise en charge par des voisins, oui, directement. Oui, oui.
Bon, ça reste un acte citoyen possible.
Oui, bien sûr, oui. Sauf si la personne s'y oppose, effectivement, la personne concernée s'y oppose. Oui, c'est même un acte de bravoure, je dirais.
Non, c'est un acte citoyen. Peut-être qu'on oublie ça. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, être citoyen, c'est payer ses impôts et puis déléguer à la force publique la capacité d'un certain nombre d'actions. Je pense que quand on s'adresse comme ça, c'est un élan de solidarité. Bon, on a mis ça en place, je trouve ça super. C'est pris en charge par l'État. C'est les impôts qui sont prélevés qui permettent de financer ça. Ça, il faut le rappeler quand même, parce que ça a un coût de plusieurs millions d'euros par an au niveau national, je pense que
pour la Lozère, c'est 1 million d'euros.
C'est 1 million d'euros, rien que sur
l'hébergement, l'accompagnement social, imaginons, c'est déjà 1 million d'euros.
Voilà, imaginons sur l'Hérault, le Gard, sur la région, Languedoc-Roussillon, déjà
70
c'est...
millions sur l'Hérault.
Ouais, donc c'est énorme. Donc c'est vrai que ça, ce sont nos impôts, donc ça sert bien à quelque chose de payer des impôts aujourd'hui, on se pose la question. Mais qu'aussi, ça n'empêche pas l'acte citoyen. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de rappeler aux gens, bon, on peut faire le 115, quoi, mais en même temps, on peut aussi s'investir dans ces associations qui ont besoin, alors pas forcément directement ce que je disais précédemment, mais dans les associations comme Yvonne Malzac, comme La Traverse ou Quoi de Neuf, qui ont besoin aussi de...
Bien sûr, et puis soutien, on a cité que les principales, on peut aussi citer la Croix-Rouge, Saint-Vincent-de-Paul, les Restos du Cœur qui eux interviennent très, directement, très actifs, ouais. Et on peut citer le projet d'épicerie solidaire qui se met en place sur Mende avec les associations pilotées par Saint-Vincent-de-Paul qui vont apporter une réponse supplémentaire à des personnes qui ne se présenteraient pas au Restos du Cœur, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a à la fois l'engagement associatif, et étant en charge de la vie associative à la DDCSPP, je ne peux que l'encourager, mais si le message qu'on peut retenir aujourd'hui est que toute personne qui, un soir de Noël, peut accueillir un voisin qui se trouvera seul, ou même pas que le soir de Noël, mais je crois que c'est déjà une première réflexion, de dire qui dans mon village va être seul le soir de Noël et que je pourrais accueillir à ma table.
Ouais, c'est ça.
C'est le genre de réflexion que...
Et en cette période de bonne résolution, effectivement, pas fermer les yeux, et ne serait-ce qu'appeler le 115 si on voit quelqu'un en difficulté, même si on ne peut pas toujours accueillir chez soi ou qu'on n'a pas les moyens de donner de l'argent, etc. C'est déjà beaucoup et c'est une bonne résolution, je pense, à prendre.
Donc plusieurs possibilités. Hein. Si vous êtes un citoyen responsable et respectueux, eh ben, faites le 115 si vous voyez quelqu'un au bord de la route ou même à côté de chez vous, voilà, qui en a besoin dans ces périodes-là. Et puis sinon, ben, engagez-vous dans les associations qui ont besoin de votre force pour vivre.
Oui, le bénévolat.
Voilà. Reste d'actualité.
Voilà, et le seul moyen de faire vivre les associations. C'est subvention, c'est bien, mais le bénévolat, c'est tout.
Mais on va se quitter sur ces belles paroles.
Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces informations. Voilà, c'était intéressant, on a appris plein de choses.
Et puis, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Merci à vous.
Merci.
48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Après cette pause de silence, nous voilà, désolé, on a un petit souci technique. Donc Ludo, si tu écoutes, tu appelles de suite la maintenance parce que ça commence à bien faire. Et donc on continue ce 90e acte, donc toujours en direct. Après avoir parlé du plan vague de froid avec Jérôme Portal et Denis Meffray, donc nous allons parler logement avec Héloïse Coste et Laurélène Foy, voilà, de l'ADIL 48. Donc l'agence départementale d'information sur le logement de la Lozère. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est l'ADIL déjà ?
Oui, donc l'ADIL c'est une association loi 1901, donc dont le but est de délivrer gratuitement des conseils juridiques, financiers et fiscaux sur tout ce qui concerne le logement. Alors parfois des personnes appellent à l'ADIL et nous disent ah mais l'ADIL c'est que le logement, vous pouvez pas me renseigner sur ma facture de téléphone ou d'autres choses. Donc j'ai tendance à dire que c'est que le logement, mais c'est tout ce qui concerne le logement. Et c'est une matière qui est déjà bien assez vaste, hein, puisque ça va des rapports locatifs aux questions d'amélioration de l'habitat, la copropriété, les relations de voisinage. Donc, il y a de quoi faire.
Donc, qui est votre public, en fait, finalement ? Tout le monde, qu'on soit propriétaire, locataire, tout ça
Oui, effectivement. Tout le monde peut consulter l'ADIL gratuitement. Donc, effectivement, le grand public, hein, les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, les locataires, des personnes en recherche de logement également. Mais ça peut être également des associations qui peuvent nous contacter parce qu'ils sont confrontés à une question spécifique et qui veulent une expertise juridique. Ça peut être des banques, des travailleurs sociaux, voilà. Vraiment très très large public.
D'accord. Et vous, vos rôles respectifs donc au sein de cette association, qu'est-ce que c'est ?
Nos rôles respectifs, disons que il y a donc une directrice qui est également juriste. Moi-même, je suis juriste et donc nous répondons à toutes les consultations, donc que ce soit par téléphone ou suite à une visite éventuelle du consultant. On répond donc aux questions qui nous sont posées directement.
Et où se situe l'agence, du coup ?
Alors, on a notre siège principal qui est à Mende, dans l'immeuble Foch, qui est donc situé au 12 bis avenue Foch. Et ensuite, on fait des permanences sur le département, une fois par mois, l'après-midi. Donc, on fait une permanence sur Marvejol, une sur Saint-Chély-d'Apcher, une à Langogne et une à Florac.
Et est-ce que vous vous déplacez à domicile pour, je sais pas, une personne âgée qui aurait besoin de renseignements ?
Non, ça, on ne se déplace pas à domicile. Effectivement, il faut que les personnes viennent nous rencontrer, que ce soit à Mende ou lors de nos permanences.
Sachant que pour compléter, effectivement, pour les personnes qui pourraient pas se rendre à Mende ou dans nos permanences, on a établi un partenariat avec la Maison de l'Emploi et de la Cohésion sociale pour permettre effectivement aux personnes de nous contacter par visioconférence. En visio-rendez-vous, donc à partir des 9 plateformes de la Maison de l'Emploi. Donc ça augmente encore plus notre accessibilité au grand public. Et puis c'est vrai que si vraiment la personne ne peut pas se déplacer, ni dans une maison de l'emploi, dans un relais service public, ni lors d'une permanence, en général, par téléphone ou en échangeant des courriers, on va arriver quand même à répondre à sa question. Souvent, le téléphone peut suffire, en tout cas pour une première question assez simple, ça peut suffire. Parfois, il est nécessaire qu'on puisse voir le contrat de location ou que la personne nous expose plus en détail son projet. Et donc, à ce moment-là, on va proposer un rendez-vous.
Donc, on vient vous voir. Je suis propriétaire, j'ai aussi des droits ou c'est que les locataires ?
Alors, effectivement, tout le monde peut venir nous voir. On n'est pas une association de propriétaires. On n'est pas une association de défense du consommateur. Donc, on remplit vraiment une mission de service public et on renseigne tout le monde. Donc, nous, on dit la loi, on dit le droit, on explique, on essaye de simplifier, d'expliquer les dispositifs qui changent régulièrement. Mais on va dire le droit est la même chose autant aux propriétaires qu'aux locataires.
D'accord. Voilà. C'est un droit aux citoyens.
C'est ça, exactement. C'est ça. Un droit à l'information.
Un droit à l'information. Oui. Et c'est une association, donc vous avez dit que c'était une association qui est financée par qui, en fait?
Donc, par
les collectivités, c'est ça?
Voilà, on a différents financements. Principalement, on a deux principaux financeurs, le ministère du Logement et le Conseil Général. Et ensuite, on a d'autres financeurs, notamment Action Logement, donc un organisme qui finance le logement des salariés du secteur privé. Les collectivités locales, communes, communautés de communes participent aussi à notre financement. On a des associations, des banques, des agents immobiliers. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir une pluralité de financeurs. Ça garantit aussi notre neutralité.
D'accord. Avec les banques.
Oui, en fait, c'est la pluralité de nos partenaires qui fait qu'on ne défend pas l'intérêt de l'un ou de l'autre.
Vous n'êtes pas dépendant de l'un ou de l'autre.
Tout à fait.
D'accord. Puis il y a pas de, vous n'êtes pas aussi soumis à des publicités ou à des choses comme ça.
Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que je vais pas les citer, mais certains établissements bancaires nous financent, mais un particulier qui aura un projet d'accession à la propriété ne sera pas orienté par la DIL vers cet organisme-là.
D'accord. Plus que d'accord.
Voilà.
Vous n'avez pas d'intérêt, quoi.
Aucun.
Non, je ne cherche pas à te mettre en défaut, Louise. Pas du tout. Non, je pense justement que c'est un très, très bon outil qui n'est pas assez utilisé par nos concitoyens, d'analyse de ses capacités de financement.
Alors, pas assez utilisé.
Si, vous êtes beaucoup.
Enfin, on est quand même beaucoup sollicités.
Bon, on a fait un super boulot, alors.
Mais n'hésitez pas à nous consulter.
Non, mais parce que chaque fois
que
je parle de vous à des amis, etc., ou à de la famille, je dis mais vous êtes allé les consulter parce que ça rentrerait complètement dans leurs compétences ou des réponses que mais je connaissais pas, mais ça existe dans les départements. Alors je parle pas en Lozère hein, forcément, mais sur des grandes villes tout ça. Je pense qu'il y a d'autres outils ou d'autres moyens aujourd'hui par Internet pour être informé. Et du coup, les gens font moins la démarche. Mais du coup, est-ce que les réponses sont les bonnes aussi?
Oui, c'est possible. Alors, c'est vrai que sur Internet, on peut trouver beaucoup, beaucoup de choses. La DIL a aussi un site Internet sur lequel il y a de l'information. Ce qui est difficile sur Internet, c'est de trouver l'information à jour, actualisée.
C'est ça,
et qui répond spécifiquement à la question qu'on se pose. Et notamment dans le domaine du logement, les réglementations sont complexes. Selon qu'on est dans une location meublée, non meublée, que le bail a été signé avant telle date ou après, par exemple, on va pas avoir la même durée de préavis si on veut quitter un logement. Donc pour être sûr d'avoir la bonne réponse, un petit coup de fil à la DIL, et puis effectivement, ça sécurise quand même les
Est-ce que vous avez des compétences sur les bails commerciaux?
Les baux commerciaux?
Ouais, les baux commerciaux.
Non, la DIL, c'est vraiment que le logement.
D'accord.
Donc, on est spécialiste des questions du logement, mais pour tout ce qui est baux commerciaux, c'est encore une autre réglementation.
D'accord.
Donc, une personne qui va nous contacter, on va essayer de lui apporter.
Non, je pensais à des commerçants, par exemple, qui nous écoutent et qui potentiellement veulent avoir des informations.
Oui, ils ont le relais auprès de la CCI, de la Chambre de commerce et de l'industrie.
Qui a cette compétence aussi.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Tout à l'heure, on parlait de visibilité. Est-ce que justement, vous proposez des actions en dehors des permanences,
médiatiques,
etc. Voilà, des médiatiques,
des
événements ou...
Alors oui, la DIL, elle participe aux salons qui sont organisés sur le département en lien avec le logement. Donc normalement, cette année, à l'automne, il y aura le salon Artisan Nature sur lequel on tient un stand. On organise également régulièrement des conférences. Alors soit on les organise, soit on participe, hein, notamment sur des projets d'amélioration de l'habitat.
Vous étiez sur celle qui a organisé la MAIF?
Tout à fait.
Ouais.
Nous y étions.
C'est bien, ouais.
Ensuite, on organise aussi à la DIL des réunions d'information spécifiques sur un thème particulier régulièrement. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près 4000 consultations par an. Donc, pour une toute petite équipe, puisqu'on est 3 personnes, dont 2 juristes, on est quand même sollicité.
Ouais, ça fait que 1333 par personne, c'est pas beaucoup.
Non, mais on est 2 juristes, ça fait 2000 par personne.
Ça commence à faire, je confirme.
Oui, ça commence à faire. Non, c'est vrai, c'est bien.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des... Vous pouvez nous faire peut-être un bilan de votre activité en 2014 et puis nous parler un peu des nouveautés, qu'elles soient juridiques ou vous, au niveau de la DIL en 2015.
Qu'est-ce qui nous attend en 2015, en fait? Beaucoup de crédits d'impôt?
Plein de bonnes choses en 2015.
Alors, bilan 2014.
Bilan 2014, bah, comme je disais, 4000 consultations. Alors nous, on appelle ça des consultations, effectivement, des conseils donnés. Voilà. Donc c'est à la fois...
avec des prescriptions derrière, hein.
C'est à peu près 60% de consultations, de conseils qui sont donnés par téléphone, et puis 40% physique, donc soit sur rendez-vous, soit sans rendez-vous. Donc c'est plutôt des bons chiffres, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on...
Pour un département comme le nôtre, ouais.
Oui, ouais, c'est ça. Les gens viennent nous rencontrer, soit à Mende, soit dans les permanences. Et c'est vrai que c'est important, dans la mesure du possible, d'avoir un rendez-vous, un entretien.
Voilà, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça, alors qu'à chaque fois qu'on essaie d'avoir une mutuelle ou une banque, on tombe sur un numéro infernal, un 08, machin, on tombe sur un serveur. Franchement, gardez ça, quoi. Parce que
voilà,
qu'on reproche à tous ces organismes aujourd'hui, c'est qu'on a perdu le contact avec eux. Voilà. Et que c'est compliqué d'avoir directement la personne. Non, qu'est-ce que vous en pensez?
Nous avons un standard qui répond nominativement sans utiliser le taper 1 si vous voulez tel service, ouais, taper 2. Et nous avons
surtout quand on tombe. Voilà, surtout quand on tombe, on sait pas où, dans l'Essonne, tout ça. Vous êtes où? C'est quoi? Vous dites Mende, mais c'est en quel département ça? Donc là, ça nous met un peu en colère.
Voilà, donc c'est vrai que la proximité, c'est important. Et voilà, on essaie de répondre au mieux. On est ouvert tous les jours au public, de 8h45 à 17h30, sauf le vendredi après-midi. Et on continue, donc nos permanences et notre activité sur l'année 2015.
Entre midi et deux aussi?
Alors entre midi et deux, on fait une petite pause entre 12h30 et 13h15, mais sachant qu'on est une équipe qui est petite mais qui est souple et réactive, et si une personne peut venir nous voir qu'à midi et demi, on la recevra à midi et demi. Si elle peut venir nous voir qu'à 18h, on fera en sorte, on essaye au maximum d'être réactif et de répondre aux besoins de la population.
Très bien. Et donc les nouveautés pour 2015, toutes les belles surprises que vous nous avez...
Comme chaque début d'année, effectivement, il y a des nouveautés pour l'année qui vient dans un certain nombre de dispositifs. Alors on ne sera pas exhaustif parce que il faudrait tout un mag rien que pour nous. Mais on peut noter.
Mais on peut faire un mag rien que pour nous.
Je note. La première mesure dont je voulais parler, c'est la prolongation du prêt à taux zéro. Donc le prêt à taux zéro, je rappelle, c'est un dispositif. Qui est destiné à aider les primo-accédants, donc les personnes qui vont devenir propriétaires pour la première fois. Donc c'est un prêt sans intérêt qui va aider à les solvabiliser et donc à accéder plus facilement à la propriété. Donc c'est un prêt qui existe depuis un moment déjà. Et
depuis les années 2000.
Oui, c'est ça.
C'est ça. 2002, 2003.
2005, la première mouture, et puis il a été régulièrement modifié. Il y a un moment, il s'appelait NPTZ, puis PTZ+, puis là on revient au PTZ, donc prêt à taux zéro.
Il y a l'éco aussi, hein.
Il y a l'éco PTZ, ouais, mais alors ça c'est pour les travaux, alors que là c'est vraiment pour l'accession. D'accord, et depuis 2012, accession. Ce prêt était principalement réservé aux acquisitions dans le neuf, c'est-à-dire à la construction et ou à l'achat sur plan, avec une exception pour l'achat d'un logement HLM. Aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2015, ce prêt à taux zéro est ouvert aux projets d'accession amélioration dans certaines communes rurales. Donc on était très attentifs à la deal sur les communes, savoir si en Lozère on serait concerné et si oui, où et comment, etc. Et donc effectivement, il y a 6000 communes en France qui sont concernées par ce prêt à taux zéro version achat dans l'ancien avec travaux, dont 27 communes sur le département de la Lozère. Donc,
on a les noms de ces communes?
On a les noms, effectivement. Alors je ne peux pas faire la liste à la Prévert de toutes les communes, mais par exemple sur la Canourgue, Florac, Grandrieu, Langogne, Marvejols.
Autour de Mende, on en a
Autour de Mende, non.
Il y a au moins. Où est-ce qu'on peut retrouver cette liste?
Alors très prochainement sur le site internet de la DIL. Et sinon, il y a la liste nationale des 6000 communes qui est en ligne sur le site du ministère du Logement, territoire.gouv.fr.
Ça a été fait pour la revitalisation des centres-bourgs, c'est ça?
Exactement. C'est vraiment l'objectif, c'est de revitaliser les centres-bourgs. Alors les communes, elles ont été sélectionnées. C'était des communes de moins de 10 000 habitants qui avaient un taux de vacances important. Donc a priori, du potentiel de logement à acheter et à rénover, avec quand même un certain niveau d'équipements et de services à proximité. Et l'idée, c'est effectivement d'éviter un peu d'étalement urbain et de faciliter l'acquisition de ces logements dans les centres-bourgs.
Oui, ce qui est une bonne idée.
Ah oui, tout à fait. Ouais. Donc si on est éligible à ce prêt, puisque pour être éligible, il faut, au-delà d'avoir ce projet d'achat avec travaux, avoir des ressources inférieures à certains plafonds, puisque c'est un dispositif d'accession sociale. Donc par exemple, pour un couple, il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 30 800 euros.
Un couple sans enfant, hein, c'est
un
ça.
Un couple sans enfant.
Parce
oui,
qu'après, il y a des bonifications avec.
C'est ça. Si on a un enfant, le niveau de ressources est à 37 400 euros. Deux enfants, 44 000 euros.
37 000, ça correspond à quoi? Un SMIC, un peu plus d'un SMIC.
Oh, plus d'un SMIC, hein. Plus d'un SMIC. Oui, beaucoup plus.
Sur un couple.
Sur un couple, oui. Ah oui, puisqu'un SMIC, enfin là, j'ai pas les chiffres en tête, mais on va être plutôt autour de 24 000 euros, 25 000 euros de revenu fiscal de référence.
D'accord.
Donc on est quand même au-dessus. Sachant que c'est revenu fiscal de référence, donc c'est après abattement, soit des 10%, soit des frais réels.
D'accord.
Et ensuite, ce prêt à taux zéro, il va représenter 18% du coût de l'opération.
Donc, ah oui, par exemple, il est plafonné à 18%.
Voilà.
Sur 100 000 euros, ça
c'est
fait...
C'est 18 000 euros à taux zéro.
D'accord.
Tout à fait.
Et sur 150 000 euros, comment ça fait?
Moi, j'ai piscine.
27 000 euros, enfin.
Mais je suis très mauvaise, je fais de la radio, pas de maths.
Ah, l'école publique.
Voilà ce qu'on peut dire sur ce prêt à taux zéro. Alors, je rassure quand même les personnes qui ont un projet dans le neuf. Le prêt à taux zéro continue. Dans le neuf continue. D'accord. Aux mêmes conditions, mais il est aussi ouvert aux projets d'achat dans l'ancien avec travaux, donc sachant qu'il faut faire au moins 25% de travaux. Alors, c'est-à-dire que sur un projet à 100 000 euros, il faut qu'il y ait 25 000 euros de travaux.
D'accord, donc ça monte le projet à 125 000 euros.
À moins qu'il soit inclus dans les 5 000 euros.
Voilà, tout dépend.
Voilà, donc ça, c'est le dispositif important sur l'accession à la propriété et qui était attendu.
Oui, c'est bien, c'est bien. La suite ?
La suite, ça c'était donc dans l'hypothèse où le particulier avait un projet d'acquisition. Les questions qui nous sont souvent posées à la DIL concernent les personnes qui ont des projets d'amélioration de leur logement.
Et d'isolation, tout ça.
Pardon ?
D'amélioration, c'est-à-dire d'isolation, oui,
par exemple,
ça, chauffage.
Voilà, travaux d'isolation, ouais. Changement des fenêtres, ouais. Ou du système de chauffage, tout à fait. Donc toujours les travaux en lien avec les économies d'énergie.
Et oui, c'est pour ça que je dis ça, parce que
ouais,
c'est juste pour changer sa téloche.
Ah non,
ou la peinture de ses murs, ça ne marche pas, je veux dire. C'est ça, hein ?
Non, ça ne fonctionne pas encore. D'accord. On vous le dira quand ce sera le cas, si ça arrive un jour.
Il y a un prêt à tous changer ma télé.
Donc au niveau de ces questions sur les travaux d'amélioration, il y a effectivement eu des modifications suite à la loi de finances pour 2015. Puisque le fameux crédit d'impôt au développement durable qui était en place jusqu'à présent a été modifié. Depuis le 1er septembre dernier, il a été rebaptisé. Désormais, il s'appelle le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Et donc, il concerne les travaux d'amélioration dans des logements qui sont achevés depuis plus de 2 ans. Donc, ce qui concerne quand même beaucoup de monde au quotidien. Donc je rappelle simplement que le crédit d'impôt, c'est une réduction d'impôt qui peut donner lieu à un remboursement de l'administration fiscale.
Si on ne paye pas d'impôt.
Exactement. Ou pas suffisamment, entre guillemets, d'accord, pour couvrir le montant du crédit d'impôt. Ouais, tout à fait.
Donc, il est de combien à peu près ce crédit d'impôt ?
Alors justement, la grande nouveauté, c'est qu'il est fixé aujourd'hui à 30%, quels que soient les travaux envisagés. Jusqu'alors, il fallait faire ce que l'on appelle un bouquet de travaux, donc au moins 2 travaux dans une liste qui nous est donnée par l'administration fiscale. Depuis septembre, en faisant seulement un seul type de travaux, par exemple, je veux changer mes fenêtres, je peux bénéficier à ce titre du crédit d'impôt à hauteur de 30% sur le montant TTC de la facture hors main d'œuvre. Voilà. Jusqu'à présent, il fallait faire donc un bouquet de travaux. Et c'est vrai que souvent, les gens qui avaient le projet de changer simplement leur système de chauffage, par exemple, mais se voyaient dans l'impossibilité, exactement, de bénéficier de ce crédit d'impôt. Donc c'est vrai que cette modification risque de permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir en bénéficier.
D'accord. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle.
Oui.
C'est une bonne nouvelle et également pour les personnes qui envisageaient uniquement le changement des fenêtres en maison individuelle, puisque cette personne-là était exclue du crédit d'impôt. En maison individuelle, le seul fait de changer les fenêtres, même pour des personnes aux revenus modestes, était exclu.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est un problème, en fait.
Or, ça a un coût, le changement des fenêtres. C'est, ouais. Voilà, c'est vraiment un poste important dans des travaux d'amélioration. Donc voilà, désormais, ils pourront à nouveau prétendre au crédit d'impôt à hauteur de 30%, dans la limite quand même de 8 000 euros de dépenses pour une personne, 16 000 euros pour un couple soumis à imposition
commune. C'est-à-dire 8 000 euros, c'est-à-dire qu'il faut faire au moins 8 000 euros de dépenses ?
Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que si on a plus de 8 000 euros de dépenses pour une personne seule, le crédit d'impôt sera calculé que sur 8 000 euros.
D'accord, c'est le plafond de calcul.
Pluriannuel sur 5 ans. Donc si effectivement...
C'est-à-dire qu'on peut toucher le crédit d'impôt que sur une période de 5 ans. Si on l'a déjà touché, on ne peut pas refaire 3 ans après le sol ou le plafond ou je ne sais pas quoi. C'est ça ?
Si, par exemple, on a changé ses fenêtres il y a 2 ans et qu'on a eu un crédit d'impôt pour une dépense de 10 000 euros, plafonné à 8 000 euros si on est une personne seule, pendant 5 ans, effectivement, on ne pourra pas solliciter un nouveau crédit d'impôt.
D'accord.
Le compteur se remet à zéro au bout de 5 ans.
Au bout de 5 ans. Mmh. C'est comme les points pour le permis à points.
C'est plus rapide.
Tous les 3 ans.
C'est tous les 3 ans.
Ouais, c'est long, hein. C'est super long. Je dis ça parce qu'il m'en manque, hein.
J'aurais une question. Donc, il n'y a plus de modulation en fonction du type de travaux. Ce qui semblait intéressant avec le dispositif précédent, c'est qu'on avait donc une prise en charge plus importante pour des travaux d'isolation majeurs. Il me semble avoir en tête que l'isolation de la toiture des plafonds était plus importante que les fenêtres, qui sont des dépenses plutôt de confort, même si on comprend bien qu'on ait besoin d'avoir des fenêtres qui ne laissent pas passer l'air. Et donc, l'avantage d'une modulation, c'est qu'on avait une meilleure prise en charge. Un crédit d'impôt supérieur avec 30 cm d'isolant en toiture plutôt que de changer les fenêtres. Donc là, c'est plus le cas.
Effectivement, ça a évolué. C'est-à-dire qu'au départ du dispositif, les taux étaient modulés, effectivement, selon les travaux réalisés. Ça avait cet intérêt, mais ça avait comme défaut une lisibilité qui était quand même assez complexe, hein, puisqu'on s'est retrouvé à la fin, je crois, avec 15 taux différents. Donc c'était un petit peu compliqué pour nous, donc pour le particulier encore plus. Donc du coup, l'année dernière, le choix qui avait été fait, c'était d'avoir un taux à 15% si on faisait qu'une action et réservée aux ménages modestes, et puis une majoration à 25% si on faisait un bouquet de travaux. Donc là, l'idée, c'était effectivement d'encourager les rénovations importantes avec un bouquet de travaux, seulement effectivement pour les personnes en difficulté, et puis dans une période où on veut inciter à la réalisation de travaux, on est revenu maintenant à un petit coup de pouce, et c'est vraiment une année, je pense, intéressante du coup pour envisager de travaux, ouais. Parce que c'est pratiquement un tiers, 30%, c'est pratiquement un tiers de la facture en crédit d'impôt, donc dès la première action, ça peut être peut-être un levier pour envisager des travaux cette année.
Le nom a changé aussi, est-ce que c'est le crédit d'impôt pour la transition énergétique ? Est-ce que du coup, ça veut dire aussi que pour ceux qui veulent investir dans le photovoltaïque ou dans l'énergie solaire, tout ça, est-ce que ça rentre là-dedans ou pas du tout ? Parce que du coup, on n'est pas seulement sur l'isolation de la maison, tout ça. On peut être aussi sur la production, sur l'autonomie ou l'autoconsommation. Est-ce que on rentre là-dedans ou pas du tout ?
Alors, le changement de nom ne signifie pas derrière, effectivement, de nouveaux travaux, notamment sur le solaire photovoltaïque. Je pense que c'est vrai que c'est plutôt lié au fait qu'on soit dans le projet de loi pour la transition énergétique et pour la croissance verte. Donc, c'est un terme qui est beaucoup utilisé par le gouvernement. Et pour faciliter la lisibilité des dispositifs, je pense qu'on en a profité pour utiliser aussi ce terme pour le crédit d'impôt. Ouais. Alors, je ne suis pas dans les secrets des ministères pour savoir si effectivement la raison est celle-là, mais je pense que c'est plutôt ça. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a deux nouveaux équipements qui ouvrent droit à un crédit d'impôt et qui n'ouvraient pas droit à un crédit d'impôt jusqu'à maintenant. Donc, je vais laisser Laure-Hélène peut-être les présenter. J'ai moins révisé qu'elle.
Donc, ces deux nouveaux équipements, donc c'est les compteurs individuels pour le chauffage et le chaud sanitaire. Dans les copropriétés qui sont équipées d'une installation centrale ou d'un réseau de chaleur. Et l'autre équipement qui devient éligible donc au crédit d'impôt, c'est les bornes de recharge des véhicules électriques.
Voilà. Ah oui, j'allais en mettre un chez moi.
Mais voilà, vous pourrez bénéficier du crédit d'impôt, pourquoi pas. Simplement, on voulait rajouter qu'à compter du, enfin, depuis plutôt le 1er janvier dernier, pour bénéficier de ce crédit d'impôt transition énergétique, il faut obligatoirement faire appel à une entreprise qui a le label RGE.
Ah oui, c'est fameux label RGE.
C'est fameux label RGE.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. Et donc ça prouve que l'entreprise est satisfaite à des exigences de compétences particulières dans le cadre de la réalisation de travaux d'économie d'énergie. Et c'est vraiment un gage de sécurité pour le particulier qui veut réaliser des travaux de cet ordre.
D'accord. Il suffit pas d'avoir le label EDF Bleu Ciel. C'est ça ?
C'est ça.
Ouais.
Alors, en fait, ce label RGE, là aussi, on est dans une démarche de simplification et d'une meilleure lisibilité pour les particuliers parce qu'il existait un grand nombre de labels. On voyait même des fourgons avec des pros de la performance énergétique, etc. Et du coup, c'était difficile de savoir, OK, je fais appel à une entreprise qui est qualifiée, mais est-ce que c'est la bonne qualification ? Qu'est-ce que ça va m'apporter en plus, etc. Donc, ce label RGE regroupe un certain nombre de dispositifs qui existaient précédemment et...
Qui le délivre, ce label ?
Les organismes certifiés par le COFRAC, qui... Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment un gage de qualité.
D'accord.
Vérifié à partir de chantiers qui sont déjà réalisés. L'entreprise a dû être formée, donc c'est vraiment un gage de qualité.
C'est pas juste la formation de quelques personnes dans l'entreprise sur telle et telle technicité, quoi. C'est vu sur chantier, il y a un...
c'est un vrai signe de qualité.
D'accord.
Et maintenant, ça conditionne effectivement les aides, un certain nombre d'aides publiques, notamment le crédit d'impôt et l'éco-prêt à taux zéro.
Et en Lozère, on en a beaucoup des entreprises qui ont ce label ?
Enfin, on les a pas. Moi, personnellement, je les ai pas comptées, mais sur le site internet du ministère, donc www.rénovation.infoservices.gouv.fr, tout le monde peut, donc en consultant ce site, trouver la liste des professionnels qui ont ce fameux label RGE. Donc, on peut faire une sélection par département ou par compétences techniques. Est-ce qu'on cherche un charpentier ? Est-ce qu'on cherche un installateur de chaudière ? Voilà. Donc ce site est très intéressant. Et
après, il y a la Fédération départementale du bâtiment, c'est ça qui a aussi toute une liste de...
Oui, la FFB, la CAPEB également tient à jour la liste des professionnels qui ont ce cycle de qualité. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se sont engagées dans cette démarche, puisque pour que les particuliers, après, puissent bénéficier de l'éco-prêt et du crédit d'impôt, il faut effectivement que l'entreprise soit RGE. Donc des entreprises se sont beaucoup formées et certaines n'ont pas encore le label, mais sont en cours de labellisation. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment que le particulier sache qu'il faut ce label et demande à l'entreprise, effectivement, si elle l'a au moment où elle les consulte pour la réalisation de devis.
Justement, c'est les entreprises... Pardon,
oui, un message de vigilance, effectivement. Là, c'est ma casquette, protection du consommateur, protection des populations. Et effectivement, il faut exiger les documents officiels de la part des artisans. C'est une fraude assez classique. Et effectivement, on voit fleurir sur des camions des labels, mais qui ne sont même pas... qui n'existent pas et qui ne sont même pas délivrés. Donc là c'est vraiment, de même que le démarchage à domicile, un message de vigilance. On réfléchit à deux fois avant de signer, on exige, on vérifie, on contrôle, de manière à ne pas se laisser embarquer dans des tromperies ou des fraudes.
Oui, c'est sûr. Puis en plus, il n'y a pas d'urgence, parce que quand on a investi entre 15 et 20 000 euros dans de la rénovation, c'est comme quand on achète une voiture. On essaye, on regarde, on fait faire des devis. Il faut prendre le temps.
On se renseigne à la DIL pour connaître quelles sont les aides.
Voilà. On vérifie bien qu'il y a bien le label RGE.
Mais le démarchage à domicile, justement,
c'est vrai,
existe pour éviter, pour squeezer vos démarches. Ouais. Effectivement, leurrer un certain nombre de consommateurs un peu.
Et puis, il faut se méfier aussi des trucs, les packs, tout compris. Mais on s'occupe de tout. Vous signez là, on s'occupe de tout, on fera toutes les démarches, etc.
Ouais. On vous offre, entre guillemets, le prêt qui va avec pour financer les travaux.
Oui, des prêts qui sont exorbitants, souvent. Ouais. Ouais.
Rappeler qu'il y a 10 jours pour se rétracter quand on est démarché à domicile. Bon, je simplifie un petit peu, mais néanmoins, on peut se rendre compte qu'on n'a peut-être pas signé ce qu'on voulait signer. Contacter la DIL pour se renseigner et dans les 10 jours, annuler l'offre qui a été signée.
Ben c'est bien. D'autres nouveautés en 2015 ?
Simplement, tant qu'on est dans le cadre des crédits d'impôt, puisqu'il en existe d'autres, simplement préciser que le crédit d'impôt, donc en faveur de l'aide aux personnes, a été prolongé de 3 ans. Il devait prendre fin au 31 décembre dernier. Il est donc reconduit jusqu'au 31 décembre 2017. Et ce crédit d'impôt donc permet de... concerne plutôt notamment l'installation ou le remplacement d'équipements spécifiques pour les personnes handicapées ou âgées.
Comme les montées charges d'escalier, c'est ça ?
Voilà, par exemple, ou une barre d'appui dans une salle de bain, ou l'adaptation d'un bac de douche. Voilà, tout à fait. En sachant que les particuliers ne connaissent pas forcément ce crédit d'impôt. Et c'est dommage parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas l'obligation d'être handicapé ou particulièrement âgé pour en bénéficier. N'importe qui peut en bénéficier à titre préventif, entre guillemets.
Ou si on accueille un parent âgé régulièrement, effectivement adapter ses sanitaires ou sa salle de bain.
Même si on n'a pas de handicap pas de faiblesse.
Tout à fait.
D'accord, c'est bon à savoir.
Donc ça peut être intéressant. Et donc là, en termes de taux, le taux est de 25% sur le montant de TTC de la facture, main d'œuvre comprise. Donc ça peut quand même être une aide significative, on va dire, pour les personnes qui envisagent des travaux de ce type. Voilà pour le crédit d'impôt.
Oui, juste quelques mots sur les autres dispositifs d'aide pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements. Donc le programme Habiter Mieux de l'ANA continue. Donc ça, c'est un dispositif important pour aider les propriétaires occupants modestes à réaliser des travaux d'économie d'énergie dans leur logement, donc des travaux qui représentent au moins un gain énergétique de 25%. Donc ce dispositif continue sur 2015, avec quand même quelques modifications, un recentrage sur les publics les plus modestes, puisqu'il y a des plafonds modestes, très modestes. Ouais. Voilà. Donc c'est avec des plafonds de revenus et réorienté vers les plus modestes, les personnes en situation de précarité énergétique. Et le montant de la prime, puisqu'en fait ce dispositif consiste en une subvention de l'ANA, donc c'est un pourcentage du montant des travaux, plus une prime FART, qu'on appelle, qui elle, dont le montant évolue...
Et FORT ou FART ?
FART. Du fonds d'aide à la rénovation thermique, voilà, qui évolue et qui était à 3000 euros et qui passe, selon les niveaux de revenus des ménages, entre 1600 et 2000 euros. Le Conseil général continue d'abonder ce dispositif à hauteur de 500 euros et certaines communautés de communes abondent également ce dispositif qui reste donc opérationnel et vraiment une opportunité pour les propriétaires occupants modestes pour les aider à financer des travaux importants. En revanche, une petite mauvaise nouvelle, mais on en a annoncé tellement de bonnes qu'on peut en annoncer une nouvelle, c'est la fin de la prime exceptionnelle de 1350 euros. Donc c'était une prime qui se voulait exceptionnelle et donc sur une courte période assez courte. Bon, normalement, ça devait être 31 décembre 2015. Finalement, ça a été 31 décembre 2014. Donc c'était une prime de 1350 euros pour les propriétaires occupants qui envisageaient de faire un bouquet de 2 actions de travaux et qui avaient des revenus supérieurs à ceux de l'ANA. Donc c'était pour les classes moyennes, entre guillemets. Donc voilà, la revalorisation du crédit d'impôt dont ils pourront bénéficier compensera peut-être la fin de cette prime.
D'accord.
Bon, eh bien merci.
Mais déjà, c'était très complet. Merci. Oui. Effectivement, il faudrait faire un Mac spécial
et
avec vous.
Si on veut plus d'informations, de toute façon, on peut aller sur le site de l'ADIL qui va être mis à jour bientôt.
Voilà, tout à fait. Donc www.adil48.org. Et effectivement, courant du mois de janvier, on va pouvoir intégrer sur notre site toutes les nouveautés nationales et locales pour que chacun puisse se renseigner. Et puis, nous, on est déjà à peu près au point sur les nouveautés. Voilà, donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je rappelle notre numéro de téléphone.
Allez-y.
Donc, pas le mien, mais celui de l'ADIL.
Vous pouvez donner
le nom aussi. Et Cost, alors on peut la contacter où?
Donc, l'ADIL, c'est le 04 66 49 36 65.
Et vous êtes où ? 12 boulevard ?
12 bis. Avenue Foch.
Avenue Foch.
Dans l'immeuble Foch.
Très bien. Eh bien, merci. Bonne semaine à tous. Merci, messieurs, d'être venus nous parler de ce plan grand froid, plan hivernal. Voilà. Et puis à vous, la deal. Toujours très intéressant, vos informations.
Et puis, on rappelle juste qu'on peut réécouter l'émission sur le site internet dès cet après-midi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée et puis encore une bonne année. Voilà.
48 FM Le Mag.
Le Conseil Général soutient la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez sur culture.lozère.fr toute la programmation, les possibilités de pratiques artistiques, des reportages et des jeux pour gagner des places, abonnements et divers lots. Le Conseil Général de la Lozère vous présente les saisons et les événements culturels du département sur 48 FM.
Votre agenda culturel du mardi 6 au lundi 12 janvier 2015. Rencontre avec Cyril Jamit qui nous présente le théâtre clandestin. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des projets de l'association ?
Bonjour, alors oui, tout à fait. Donc, nous sommes une association, donc compagnie professionnelle de théâtre, donc qui existons depuis 2009. Et donc, nous développons plusieurs actions, et entre autres une action qui se nomme les lectures d'hiver, qui sont en fait des lectures à domicile, chez les gens, sur le hameau de Vialas, où donc nous allons chez les gens pour proposer une lecture musicale sous un format avec deux comédiens et un musicien tout l'hiver. Alors c'est pas vraiment des contes hein, puisque on est sur plusieurs thématiques hein. Il y a donc des œuvres littéraires, des œuvres dramatiques, voilà, c'est pas forcément des contes. Il se trouve que la première lecture est sur les contes cette année, mais nous développons beaucoup de thématiques textuelles. Donc on a des accordéonistes, des violonistes, des pianistes, on a beaucoup de musiciens, ouais. Le théâtre clandestin s'est créé dans ce pays de maquis et de camisards, et c'est pour ça aussi qu'on fait ces lectures hein, c'est un peu un acte de résistance on va dire hein. Et le théâtre clandestin aussi qui tient son nom aussi de Tadeusz Kantor, qui est un metteur en scène polonais et qui a fait du théâtre pendant la Seconde Guerre mondiale dans les caves de Varsovie. Alors on a prévu 5 soirées, il y en a 2 au mois de janvier, 2 au mois de février et 1 au mois de mars. Voilà. C'est très simple, c'est à 18h, on arrive, on se pose sur une chaise et on écoute la lecture musicale. Après, il y a toute une partie d'auberge espagnole, on dira, puisque les gens qui nous reçoivent, les hôtes qui nous reçoivent, font la soupe pour tout le monde, de manière complètement gratuite, puisque cette manifestation est gratuite. Et ensuite, c'est un peu l'auberge espagnole, c'est-à-dire que chacun ramène des petites choses à manger, à grignoter, et comme ça nous permet de discuter à la fin de la lecture, voilà. Et surtout de partager et d'échanger, puisque c'est un peu le but de ces lectures. C'est qu'au milieu de l'hiver, un peu comme les veillées Sevenol d'autrefois, on se retrouve comme ça autour d'un sujet.
D'une soupe de châtaigne.
Aussi.
Les sujets donc sont propices aussi à la discussion, c'est ce que vous venez de dire.
Oui.
Donc quels seront les sujets abordés sur cette première programmation ?
Alors, donc la première lecture portera donc sur les contes africains. Donc les contes africains, qui a une grosse tradition orale, surtout au Burkina Faso, le pays sur lequel on va se pencher pour cette lecture. Et donc on sera accompagné là d'un musicien donc qui nous jouera plein d'instruments traditionnels, hein, de la flûte peul, du doum doum, de la kora, enfin voilà, plein d'instruments très très intéressants qui accompagneront donc la lecture sur ces contes africains. Ouais.
Donc ce sera ce samedi 10 janvier.
Oui.
Donc chez l'habitant, vous pouvez nous préciser où ?
Alors ça sera donc à l'auberge de Vialas. L'auberge de Vialas donc est un restaurant qui vient de réouvrir avec des nouveaux propriétaires, et c'est aussi le but de ces lectures, c'est de mettre aussi en lumière peut-être des nouveaux habitants, des nouveaux arrivants, pour que justement il y ait rencontre aussi avec la population locale. Donc on sera là-bas, reçu donc par ces propriétaires restaurateurs dans leur restaurant, voilà, qu'on va un petit peu transformer à la mode de burkinabèse.
D'accord. Comment il faut faire pour participer ?
Bien, pour participer, il suffit juste de venir. Alors la réservation est conseillée, bien sûr, puisque c'est souvent des petits lieux et souvent on est complet. Donc la réservation est conseillée, mais on trouve toujours une petite place bien au chaud.
D'accord. À côté de la soupe.
Voilà.
Très bien. Y a-t-il une participation sur ces soirées ?
Alors, il y a une participation, mais elle est libre. C'est-à-dire que les gens, à la fin, il y a une petite boîte, la boîte noire du théâtre clandestin. Et donc, on peut, voilà, s'épancher librement.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le samedi 10 janvier, à la salle polyvalente de Bazarou, de la musique, à 19h30, avec Guinguette Show, Musette Dégivrée. l'énergie et la créativité de deux comédiennes chanteuses nous plongent dans l'univers de leur guinguette déjantée. Elles revisitent les standards de la chanson française, de Fréhel à Bourvil, en passant par Piaf, Brel, Brassens. Burlesques, dansantes et chantantes, ces deux clowns poussent la chansonnette avec une ardeur qui font valser leurs jupettes et un swing qui décoiffe. Donc ce sera à 19h30 pour un tarif de 20€ pour le repas et le spectacle. C'est tout public à partir de 7 ans et c'est proposé par la compagnie du Lézard. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le portail culturel de la Lozère à l'adresse suivante culture.lozère.fr. Bonne semaine culturelle à tous.